VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 octobre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. D'abord, les titres. Nouvelle flambée de violence en Centrafrique, toujours en attente d'un nouveau chronogramme électoral.
Il n'est pas encore définitif. Nous sommes en phase de consultation avec les principaux acteurs, que sont les partis politiques, les organisations de la société civile et encore d'autres représentants des pouvoirs publics.
Nous entendrons Julius Ruffin Gwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique.
Le Rwanda a une nouvelle constitution. Paul Kagame pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034.
Congo-Brazza, l'opposition appelle à une marche patriotique et pacifique aujourd'hui, vendredi.
On leur demande de marcher de chez eux jusqu'au lieu où nous allons faire un moment de recueillement pour rendre hommage à tous nos morts.
Interview exclusive avec le président ivoirien Alassane Ouattara, qui se dit fier de sa victoire.
Depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'a pas eu d'élection véritablement apaisée. Il y a eu toujours de la violence. Donc je suis un homme heureux, voilà.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, en Centrafrique, plusieurs quartiers de la capitale ont été secoués jeudi par une nouvelle flambée de violences intercommunautaires qui ont fait 4 morts et des dizaines de maisons incendiées. Des membres d'une délégation de l'Union pour la paix en Centrafrique, une branche de l'ex-Séléka, venus de Bambari, ont été attaqués. Parmi les victimes figure le porte-parole de l'UPC, Ndjedjad Ahmed. Pour une réaction, Félix Yepassi Zembrou a joint le coordinateur des ex-Séléka, Abdoulaye Hissène Ramadan.
Il y a de cela des jours, ils ont assassiné 2 jeunes qui sont venus de Bambari, qui sont aussi des membres de l'ex-coalition Séléka, de IPC. Ils sont venus à Bangui par invitation du chef de l'État. Du coup, ce matin, il y a eu encore cet assassinat de jeunes musulmans qui étaient délégués de Takimoto, en plus ses 2 frères. Voilà, c'est ça qui a décidé. Il y a eu des pertes matérielles et des hommes.
Oui, Abdoulaye Hissène, est-ce que vous confirmez ou infirmez l'assassinat de Ndjedjad, qui est le porte-parole de ex-Séléka à Bambari?
Oui, Ahmed Ndjedjad a été assassiné à nouveau de combattant, c'est sûr et certain, il a été assassiné. En plus, un autre frère qui était avec lui, ils étaient 4. Il y a 2 qui étaient assassinés, et l'autre est grièvement blessé. Il y a un rescapé qui s'est sauvé. Je vous confirme que Ahmed Ndjedjad a été
Abdoulaye Hissène Ramadan, coordinateur des ex-Séléka.
Centrafrique toujours, le nouveau chronogramme électoral fixant les dates des scrutins législatifs et présidentiels sera examiné demain. Un calendrier qui n'est toujours pas définitif, comme l'a souligné le rapporteur général de l'ANE, Julius Ruffin Gwadebaba.
Il n'est pas encore définitif. Nous sommes en phase de consultation avec les principaux acteurs que sont les partis politiques, les organisations de la société civile et encore d'autres représentants des pouvoirs publics. Mais voilà, ce sont les dates que décline ce calendrier, le 13 novembre pour le premier tour des élections législatives et présidentielles combinées.
Et quand est-ce que vous pensez que ce calendrier sera définitif?
Le plus tôt possible. Les consultations avec les forces vives de la nation ont déjà commencé. Nous avons eu une première séance qui s'est très très bien passée il y a 2 jours. Nous aurons une deuxième rencontre lors de laquelle nous recueillerons les avis des uns et des autres qui nous permettront, ces avis-là, de finaliser le document que nous avons préparé.
Julius Ruffin Gwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections.
Pour être tout à fait complet sur la Centrafrique, les ministres de la Défense et de la Sécurité publique ont été limogés hier soir. Ce remaniement intervient après les vives critiques de membres du Conseil national de transition à l'encontre du Premier ministre Mahamat Kamoun, notamment sur l'incapacité des forces de défense et de sécurité nationale à enrayer les violences et à protéger la population.
Les députés rwandais ont adopté hier à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017 et lui laissant la possibilité, en théorie, de diriger le pays jusqu'en 2034. La réforme constitutionnelle a été présentée par le pouvoir comme une pure initiative populaire, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre orchestrée par les autorités dans un pays régulièrement épinglé par ses atteintes à la liberté d'expression et son peu d'ouverture politique.
Les autorités de Kinshasa ont annoncé hier soir à la télévision publique nationale la nomination de commissaires spéciaux chargés d'administrer les 21 nouvelles provinces créées en République démocratique du Congo à la suite d'une réforme territoriale contestée. Cette réforme administrative est dénoncée par l'opposition qui affirme qu'elle n'a pas d'autre but que de compliquer l'organisation des élections. La dynamique de l'opposition, coalition de partis d'opposants à Joseph Kabila, accuse le président de chercher par tous les moyens à se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui interdit de se représenter.
Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré devant un tribunal spécial africain à Dakar a été suspendu jusqu'au 9 novembre. Plus de détails avec Eddy Issango.
L'audience est suspendue jusqu'au 9 novembre selon Gwerdao Gustave Kam, le juge burkinabé qui préside les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Dès l'ouverture de ces procès, il y avait déjà une suspension pour permettre aux avocats commis d'office à la défense de prendre connaissance du dossier. D'après la cour, l'audience reprendra avec les témoignages de Clément Abefuta, président de l'association des victimes. Il y a encore une vingtaine de témoins à auditionner à Dakar et d'autres qui sont en N'Djamena avant les plaidoiries. Ces procès devaient en principe prendre fin le 28 octobre, c'est-à-dire avant-hier, mais se poursuivra probablement jusqu'en février. Accusé des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, M. Hissène Habré encourt entre 30 ans de prison et les travaux forcés à perpétuité.
Le gouvernement du Burkina Faso a ordonné l'annulation de la reprise de plusieurs concours d'entrée à la fonction publique entachés par des fraudes. Cette affaire a occasionné la condamnation d'une vingtaine de personnes à la prison ferme. Plus de détails avec Bagassi Koura.
La justice burkinabé a condamné le 23 octobre dernier 23 personnes, dont le directeur de la télévision publique, à des peines de prison de 6 à 12 mois ferme pour leur implication dans des fraudes de concours d'entrée à la fonction publique. Mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement a ordonné l'annulation des concours incriminés, la publication des résultats des autres concours et la poursuite des investigations. Selon l'AFP, les cerveaux de cette fraude sont deux responsables d'un cabinet privé chargé de la conception des sujets des concours et une structure de préparation et de formation de candidats au concours. Selon les juges, ils ont organisé la vente des corrigés des épreuves à des candidats ou à leurs parents. Un sujet corrigé coûtait ainsi entre 500 000 francs CFA et 3 500 000 francs CFA selon le type de concours, la douane ayant la plus haute cote. Au total, 665 500 candidats ont pris part au concours de recrutement de 9 773 fonctionnaires et contractuels de l'État en 2015.
La France va consacrer 174 millions d'euros à la Guinée pour aider notamment au renforcement du système de santé après l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Des fonds qui doivent notamment servir au renforcement des systèmes de santé, au soutien à l'éducation, à l'accès à l'eau et à l'électricité.
Au Sénégal, des prisonniers de la principale maison d'arrêt de Dakar observent depuis lundi une grève de la faim pour protester contre les longues détentions préventives et leurs conditions carcérales.
Au Soudan du Sud, 18 casques bleus originaires du Bangladesh ont été relâchés par les rebelles, mais 12 contractuels sud-soudanais des Nations Unies enlevés lundi sont toujours détenus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé jeudi les participants aux discussions de Vienne sur la Syrie à se montrer flexibles. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Une grande première, ces pourparlers vont se dérouler ce vendredi avec la participation de l'Iran. C'est un succès pour Moscou qui a toujours insisté pour l'implication de Téhéran dans le processus diplomatique sur la Syrie. Je suis encouragé par le haut niveau des dirigeants qui se rencontrent à Vienne demain pour parler de la situation en Syrie, a déclaré hier Ban Ki-moon lors d'une conférence de presse à Madrid. Le patron de l'ONU appelle les participants à la souplesse.
I sincerely hope that they will really address this issue with sense of flexibility.
J'espère qu'ils vont vraiment examiner la question en se montrant flexibles, quelles que soient leurs différences de point de vue politique et d'approche, a-t-il dit, rappelant qu'il n'y a pas de solution militaire en Syrie. En cela, il rejoint la position de Washington et de Moscou. Les pourparlers de ce 30 octobre ont été précédés de plusieurs rencontres hier à Vienne, rappelle l'AFP, notamment entre John Kerry et son homologue iranien, puis avec les chefs des diplomaties russes, turques et saoudiennes.
En Irak, au moins 15 roquettes ont été tirées hier sur un camp abritant des membres de l'opposition iranienne en exil à Bagdad. C'est ce qu'ont indiqué des sources au sein des services de sécurité. Il s'agit de la pire attaque ayant visé le camp, a déclaré le porte-parole des Moudjahidines, affirmant qu'il y avait des victimes sans autre précision. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, a condamné l'attaque.
Au moins 7 jeunes Palestiniens accusés d'avoir attaqué des soldats et un colon ont été tués par des tirs israéliens ces derniers jours près du tombeau des patriarches à Hébron, un lieu emblématique du conflit national et religieux qui oppose Israéliens et Palestiniens.
Changement de stratégie pour le FMI. Le Fonds monétaire international a annoncé hier que son travail de surveillance ne se limitait plus nécessairement aux indicateurs de stabilité macroéconomique, mais pourrait se pencher dans certains pays sur les questions touchant aux inégalités sociales. Depuis 2 ans, le FMI a publié plusieurs rapports affirmant qu'un haut niveau d'inégalité sociale était néfaste pour l'économie.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Anastasie Tudiech.
Le Rwanda serait-il l'autre pays de la technologie en Afrique ? Dès 2016, des essais sont prévus au bord du lac Kivu pour des drones destinés au transport de matériel et de marchandises. Lancement commercial prévu en 2020. Les engins seront capables de transporter des colis de 10 à 100 kilos, expliquent les concepteurs du projet. L'objectif étant de développer un parc de plus de 40 drones ports à travers le Rwanda. Coût de l'opération, 6 millions de dollars par an pendant 4 ans pour le premier drone. Madagascar s'est doté d'une nouvelle usine sucrière, la Société agricole sucrière Malagasy, la SASM. La première pierre a été posée en présence du président malgache, Eri Razoana Rimampianin. Avec 20 000 tonnes de production annuelle de sucre prévues pour la première année et 100 000 tonnes à partir de la cinquième année, la Société agricole sucrière Malagasy devrait à terme employer 5 000 travailleurs permanents, auxquels il faudra ajouter 10 000 saisonniers.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Et maintenant, notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
Didier Drogba se sent bien à Montréal.
Oui, déjà distingué au mois de septembre, l'attaquant ivoirien a été désigné joueur du mois d'octobre en MLS, le championnat nord-américain de football. Auteur de 4 buts en 5 matchs en octobre, le roi des éléphants a poursuivi sur sa lancée de septembre 7 buts en 6 matchs, menant l'Impact de Montréal, son club, vers sa seconde participation aux éliminatoires depuis l'entrée du club dans la Major League nord-américaine en 2011.
Football toujours, en Angleterre, Ramirez prolonge à Chelsea.
Oui, le milieu de terrain international brésilien de Chelsea a prolongé son contrat avec le club londonien jusqu'en 2019. Arrivé en 2010 en provenance du Benfica Lisbonne, Ramirez, âgé de 28 ans, a disputé 241 matchs avec Chelsea, remportant notamment la Ligue des Champions en 2012 et le championnat d'Angleterre en 2015. Son contrat expirait initialement en 2017.
En Tunisie, le stade de Rhades sera hypothéqué à titre de garantie pour le budget 2016.
Oui, l'annonce a été faite par le ministre tunisien des Finances, Slim Chaker, qui souligne que c'est une nécessité pour garantir l'obtention des fonds nécessaires au budget 2016. Selon Foot Africa, qui rapporte l'info, l'État tunisien reprendra la propriété exclusive de l'enceinte après le règlement de cette dette. Et pour terminer, Claire, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, 3 matchs hier soir sur les parquets américains. Bagassi, Atlanta, finaliste de la conférence Est, la saison dernière se reprend et bat les Knicks de New York 112 à 101. L'une des équipes favorites pour le titre cette année, les Clippers de Los Angeles, ont battu les Mavericks de Dallas. Et dans le troisième match, celui des Outsiders, belle victoire de Memphis contre les Indiana Pacers, 112 à 103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Seconde partie du Monde aujourd'hui, nous passons donc au dossier du jour. Alassane Dramane Ouattara, réélu président de la Côte d'Ivoire avec 83,6% des suffrages. C'est donc une victoire sans appel. Au micro de Tatiana Mosso, il se dit fier de cette élection.
Je m'en réjouis, j'en suis très fier. Je suis surtout fier de mes compatriotes. D'abord la confiance renouvelée, mais aussi le caractère apaisé de cette présidentielle. Depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'a pas eu d'élection véritablement apaisée. Il y a eu toujours de la violence. Donc je suis un homme heureux, voilà.
Un homme heureux, justement, pour un second mandat, plein de défis. Il y a le défi de réformer la Constitution. Pourquoi avoir attendu d'être réélu pour le faire ?
Mais d'abord, nous avions du travail. Une Constitution se modifie par référendum. Vous savez, il fallait laisser la situation s'apaiser. Cette Constitution a été conçue en une période de crise. Après un coup d'État militaire, elle a été... manipulé par un groupe de gens qui ont utilisé les militaires pour faire toutes ces exclusions. Par conséquent, je voulais laisser la situation s'apaiser, d'autant plus que nous avions les décisions de Marcoussi qui ont quand même été adoptées par le Conseil de sécurité. Donc en réalité, il n'y avait pas de problème. Mais je vais aller au-delà de la nationalité et de l'éligibilité en proposant une nouvelle constitution pour une troisième république avec une plus grande cohérence, une constitution plus moderne, plus adaptée à notre temps et également au futur de ce que nous voyons comme importance pour le futur de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous sentez que la Côte d'Ivoire est prête à entrer dans une troisième république ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait, parce que cette élection en est la preuve. J'ai indiqué à mes concitoyens que je veux un Ivoirien nouveau. Cela veut dire un Ivoirien qui respecte l'état de droit, qui est d'accord pour l'égalité des citoyens, qui veut que le travail, le mérite, la compétence soient reconnus, et ainsi de suite. C'est le bon moment de commencer à travailler sur cette nouvelle constitution.
Alors l'autre challenge de ce second mandat, c'est la réconciliation nationale. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ?
Je crois que nous avons beaucoup fait en matière de réconciliation. Comme j'ai eu à le dire, la réconciliation est une affaire pour chaque citoyen. Parce que nous avons tous vécu des moments difficiles pendant ces années. Et d'abord, pour se réconcilier, il faut le vouloir. C'est une affaire qui vient du cœur. Il faut faire en sorte qu'on accepte de pardonner, qu'on pardonne les uns les autres. Et en fait, ensuite, il y a deux grands volets. Il y a le volet, bien sûr, de la justice, qui doit être égale pour tous, éviter l'impunité. Et nous sommes en train de faire cela. Ça va prendre du temps, ça a pris du temps. Trop de temps à mon goût, mais je constate parce que la justice est indépendante. Et là, le deuxième volet, c'est les victimes et leurs proches. Nous avons commencé l'indemnisation des victimes et cela se passe bien.
En matière de réconciliation, quel mot diriez-vous aux gens qui n'ont pas voté pour vous ?
C'est l'expression donc, de la liberté de vote de chacun et que ceci étant la majorité à voter, 84% de ceux qui ont voté pour moi. Néanmoins, je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exception, sans discrimination. D'ailleurs, je l'ai démontré pendant mon premier mandat. J'ai visité chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire telle région n'a pas voté pour moi. Et nous avons exécuté les projets avec la même ampleur. Les questions d'eau, d'électricité, de santé, d'école, nous avons fait la même chose partout.
Le président ivoirien Alassane Ouattara au micro de Tatiana Mosso, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Rwanda, Paul Kagame pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034. Les députés ont modifié l'article 101 de l'actuelle constitution adoptée en 2003. Le président de la République est désormais élu pour un mandat de 5 ans et ne peut être réélu qu'une seule fois, alors que la constitution de 2003 prévoyait deux mandats de 7 ans. Mais l'article 172 apporte une nuance de poids. Il permet au président Paul Kagame, comme à tout autre candidat, d'être élu ou réélu en 2017 pour un mandat de 7 ans, puis de briguer par la suite les deux mandats de 5 ans prévus par cette nouvelle loi fondamentale. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a toutefois démenti le fait que cet article soit taillé sur mesure pour l'actuel chef de l'État. De Kigali, la correspondance de Maurice Magoran.
La chambre basse du Parlement rwandais s'est réunie encore une fois ce jeudi 29 octobre pour étudier le projet de modification de la constitution rwandaise. Les points forts de cet amendement sont les articles 101 et 172 parlant de mandat présidentiel. Ces deux articles combinés donnent au président élu, après 2017, la possibilité de diriger le Rwanda durant 17 ans, comme l'explique la présidente de la Chambre des députés.
Rwanda qui va présenter sa candidature à la présidence de la République sera élu après 2017 pour un mandat de 7 ans. Il peut être réélu selon ce que prévoit l'article 101. Ce qui est prévu dans l'article 101, c'est que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et c'est pour tout candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas seulement pour le président Kagame.
Donatille Mukabalisa a précisé que ces articles ont été formulés ainsi pour répondre aux doléances de la population.
Tout ce qui est ici, on a fait des consultations populaires. Il y a des articles qu'on a amendés selon la volonté de la population.
Après de longues concertations et deux jours d'analyse des articles de ce projet d'amendement, tous les 75 députés présents ont voté pour. La prochaine étape, c'est le vote au Sénat. Maurice Magorané, VOA Afrique, Kigali.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à une marche patriotique et pacifique ce vendredi à Brazzaville et dans toutes les villes du pays. Les autorités ont annoncé mardi que le projet de constitution permettant au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016, ce projet avait été approuvé à 92,26% des voix, avec un taux de participation, lui, de 72,44% des voix. Sur les manifestations de ce vendredi, Idriss Fall a joint Guy Romain Quinze-Foussia, président du Front des partis de l'opposition à Brazzaville.
On leur demande de marcher de chez eux jusqu'au lieu où nous allons faire un moment de recueillement pour rendre hommage à tous nos morts, dont le premier sera inhumé. Ce que nous avons appelé marche pacifique. Nous n'allons pas aller nous promener dans la ville, mais nous allons nous rendre sur un site d'un parti, le parti de l'UPADES, pour rendre hommage à nos morts. Après quoi nous nous disperserons.
Est-ce que ces manifestations vont se limiter seulement à Brazzaville ou bien sur l'ensemble du pays?
Sur l'ensemble, chaque ville va organiser son lieu de recueillement pour rendre hommage à nos morts. Consignes qui ont été données à tous nos partis sur l'ensemble du territoire national.
Est-ce que vous avez une autorisation légale?
On n'a pas besoin d'autorisation puisque ça se fait à l'intérieur de nos sites de partis où nous ferons une activité. Il y aura les moyens de contenir notre foule parce que ce n'est pas tous les militants qui viendront, ce sont les cadres des partis qui viendront.
Et si c'est perçu par l'autre camp comme une provocation?
C'est leur appréciation, nous n'y pouvons rien.
Et le référendum qui vient de se passer, votre réaction?
Vous savez que nous sommes opposés à ce référendum et nous avons demandé qu'il soit retiré. Tant qu'il ne sera pas retiré, nous avons inscrit la désobéissance civile dans notre canevas de riposte à cette mascarade électorale.
Et qu'est-ce que vous appelez désobéissance civile?
C'est un ensemble de mesures tendant à empêcher le fonctionnement normal d'un État. Ça peut être des grèves, ça peut être des villes mortes, ça peut être toute action capable d'entraver le bon fonctionnement de l'État. Tout ça de manière paisible,
sans violence.
Et que pensez-vous de la position des puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis?
Les États-Unis ont la qualité d'être une puissance qui a donné clairement sa position. Elle est contre le tripatriage des constitutions, contre ce référendum illégal. Et nous avons beaucoup apprécié l'engagement du gouvernement américain, représenté à Brazzaville par une diplomate de renom et de qualité, qui se bat à nos côtés pour faire que les constitutions ne soient jamais travesties. Ce n'est pas le cas de la France qui nous a donné une sorte de valse tango où un coup on est d'accord avec M. Sassou, après on fait un rétro-pédalage pour dire que ce n'est pas bon. Nous sommes un peu étonnés que la France nous traite ainsi, alors que la capitale des hautes valeurs morales. Nous avons été surpris par cette hésitation, cette valse d'hésitation qui ne correspond pas à l'image que nous faisons de la France.
Guy Romain Quinfoussia, président du Front des partis de l'opposition à Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a élu à sa tête le député Paul Ryan du Wisconsin pour remplacer John Boehner qui prend sa retraite à la fin du mois. Son poste est l'un des plus influents du gouvernement américain. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
Le président de la Chambre basse du Congrès américain est le troisième personnage de l'État. Il vient en deuxième position après le vice-président en cas de vacance du pouvoir à la Maison-Blanche. Le speaker, comme on l'appelle, est aussi le patron de toute la Chambre des représentants, l'historien Matt Wasniewski. Le speaker est devenu depuis plusieurs décennies l'administrateur en chef de ce côté-ci du Parlement bicaméral. Il prend les dernières décisions sur pratiquement tout à la Chambre des représentants. Le professeur Matthew Green de Catholic University de Washington explique que le président de la Chambre doit aussi représenter ses députés auprès du Sénat, de la Maison-Blanche et du public. Il est en outre le principal leader de son parti, ce qui est d'habitude comment on le sélectionne. Donc, il est en fin de compte responsable des efforts de son parti pour faire adopter ses programmes, en recrutant des candidats pour la Chambre, en levant des fonds pour son parti et ses différents candidats. Il a aussi beaucoup de responsabilités. L'élection du premier président de la Chambre, Frederick A.C. Muhlenberg de Pennsylvanie, remonte au 1er avril 1789. Au début, c'était beaucoup plus un rôle parlementaire que politique. Les choses ont bien changé. De nouveau, le professeur Green. Ils étaient censés se tenir au-dessus de la mêlée et éviter toute politique partisane ou politicienne. Mais progressivement, au 19e siècle, au fur et à mesure que les partis politiques se renforçaient, les présidents de la Chambre des représentants ont assumé un plus grand rôle de leader de parti. Cela a commencé dans la seconde moitié du 19e siècle et a plus ou moins continué depuis. Dans un congrès plus moderne, c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle d'impulsion politique, marchander ou négocier avec différentes factions de son parti et prendre langue avec l'autre parti. Chose assez extraordinaire, n'importe qui peut être élu à la présidence de la Chambre des représentants, pas seulement ses membres. La Constitution est plutôt vague sur qui peut ou ne peut pas être speaker. Tout ce qu'elle dit, c'est que la Chambre choisira son président. Donc, comme je l'ai souligné, n'importe qui peut être speaker. Vous n'avez même pas à être membre du Congrès, précise le professeur.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Si se la gata en suelo contigo, te corto el oído para tenerte en alto. Ella muere.
Et c'est donc avec Shakira et Loca que je me permets de vous souhaiter un très bon week-end. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. John Ellison à la console. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.